Belgique et surtout bonsoir l'Amérique. Soyez les bienvenus dans la seule émission qui revient semaine après semaine sur l'actualité politique américaine complètement folle. Complètement folle parce qu'aux manettes, c'est un certain Donald Trump qui prend des décisions ou fait des grandes déclarations. Et cette semaine, il a encore fait fort, vous allez le voir. Mais pour m'accompagner ce soir, c'est Émilie Musset qui est avec nous. Good evening, Émilie. Parmi les sujets qui font la une aux États-Unis cette semaine, et particulièrement à New York, citons l'arrestation de Mahmoud Khalil, survenue donc le week-end dernier. Cet étudiant de Columbia s'est fait connaître comme une des figures de proue des manifestations étudiantes pro-palestiniennes du printemps 2024. Cette arrestation éveille une forte vague de soutien et de contestation contre le gouvernement Trump, Émilie.
Oui, Jim, alors l'arrestation de Mahmoud Khalil a été une véritable onde de choc ici. Donc Mahmoud Khalil vient d'être diplômé de la prestigieuse université de Columbia. Il est de nationalité syrienne et il est détenteur d'une carte verte depuis l'an dernier. Il est également marié à une citoyenne américaine. Alors pourquoi ces précisions ? Parce que c'est l'ICE, c'est-à-dire l'Agence fédérale de contrôle de l'immigration, qui est venue arrêter Mahmoud Khalil. Et le gouvernement menace de révoquer sa carte verte. Alors la révocation de la carte verte d'un résident permanent aux États-Unis, ça fait directement écho à une loi de 1952, donc pleine époque du McCarthyisme. Mahmoud Khalil n'est pour l'instant visé par aucune procédure judiciaire. Il n'y a pas de charge pénale contre lui. Il est accusé d'avoir distribué des tracts pro-palestiniens. Donc il est directement attaqué pour ses opinions et pas pour quelque chose qu'il aurait fait. Bien sûr, les défenseurs de Mahmoud Khalil invoquent une attaque directe à la liberté d'expression. Et les manifestations se multiplient un peu partout dans le pays, mais ici, surtout ici à New York. Hier, c'est la Trump Tower que les manifestants ont choisi comme symbole de leur résistance à cette action du gouvernement Trump. Donc en fin de matinée, ils ont manifesté pacifiquement à l'intérieur du grand hall de la Trump Tower et 98 personnes ont été arrêtées par la police de New York. Cette procédure, cette arrestation, s'inscrit dans une démarche globale du gouvernement américain de réplique contre le mouvement du printemps dernier dans les universités américaines. Le gouvernement accuse notamment l'université Columbia de laxisme face à l'antisémitisme. Le dernier rebondissement hier, c'est que Mahmoud Khalil a appelé l'université de Columbia à ne pas dénoncer les autres étudiants, à ne pas transmettre les procédures disciplinaires qui sont en cours à l'université pour ne pas alourdir la liste des étudiants qui risquent d'être inquiétés par le régime de Donald Trump.
Autre actualité, Émilie, le président Trump continue son offensive commerciale avec la première instauration effective des droits de douane. Les 25% de taxes supplémentaires sur l'acier et l'aluminium vendus aux États-Unis sont entrés en vigueur ce mercredi. Tous les pays exportateurs du monde sont visés, dont les pays de l'Union européenne. Les effets d'annonce et les menaces de riposte autour de ces droits de douane se multiplient, Émilie.
Oui, alors c'est depuis l'entrée en fonction du président Trump un des grands feuilletons économiques et financiers du monde. Donc cette semaine, donc mercredi précisément, les États-Unis ont mis en place, en application, leurs mesures douanières. Alors l'objectif du gouvernement officiellement, c'est de réindustrialiser l'Amérique et de répondre de manière réciproque à des mesures similaires qui viseraient les exportations des États-Unis dans le monde. Donc ces droits de douane sur l'acier et l'aluminium sont discutés depuis le début du mandat et pour rappel, ils avaient déjà été mis en place lors du premier mandat de Donald Trump. Il y a eu de nombreuses négociations et menaces, notamment avec le Canada, qui est un grand exportateur d'acier et d'aluminium vers les États-Unis. En début de semaine, un grand coup de théâtre, comme Donald Trump sait les faire. Il a annoncé, suite à l'annonce du Canada, qu'ils allaient relever leurs propres droits de douane de 25%. Donald Trump avait rehaussé ses propres droits de douane jusqu'à 50%, menaçant de taxer l'acier et l'aluminium canadien à 50%. Donc l'Union européenne prépare sa riposte et commence à établir des listes de produits américains qui pourraient être visés par des mesures similaires d'augmentation des droits de douane. Donc à l'annonce de taxer les whiskies américains, le gouvernement américain a répliqué immédiatement que lui instaurerait une taxe supplémentaire de 200% sur les vins et spiritueux en provenance d'Europe. Donc 200% de taxe, ça veut dire tripler le prix, c'est quasiment un embargo.
Oui, on en parlera évidemment en deuxième partie d'émission. Pour terminer, Émilie, la bourse américaine continue à être en chute libre. Les marchés financiers ont encore dévissé cette semaine. Ils ont perdu davantage depuis l'arrivée au pouvoir de Donald Trump que ce qu'ils avaient gagné dans l'euphorie financière qui avait suivi sa victoire électorale en novembre. Qu'est-ce qui explique finalement cette débâcle ?
Alors, c'est une vraie débâcle, hein, parce qu'avec les principaux indices, on a perdu plus de 10% jusqu'à 13% pour le Nasdaq, qui est l'indice des valeurs technologiques, depuis le 19 février, donc en un peu moins de 3 semaines. Donc 13%, au-dessus de 10%, on parle de phase de correction des marchés financiers. Donc la première raison de ces baisses très fortes, ce sont bien sûr les inquiétudes liées aux droits de douane et surtout aux effets d'annonce et à l'impossibilité de prédire ce que fera réellement le président Trump, qui prend énormément la parole avec des chiffres qui varient tout le temps. Alors pourquoi ces droits de douane inquiètent tellement? Parce qu'on les soupçonne et on sait qu'ils vont avoir des effets inflationnistes. Lors du premier mandat Trump, les entreprises n'avaient pas répercuté ces droits de douane sur les prix à la consommation ou pas entièrement, car elles craignaient que les consommateurs ne soient plus au rendez-vous. Or, depuis quelques années, on est dans une forte phase inflationniste, donc on sait que les entreprises n'auront plus de scrupules à répercuter ces droits de douane. Donc les prix à la consommation vont augmenter, et si l'inflation augmente, les taux d'intérêt vont arrêter de baisser. Or, la baisse des taux d'intérêt est très scrutée par les marchés, et on attend cette baisse pour soutenir l'économie américaine. Le deuxième facteur d'explication, c'est que les investisseurs commencent à avoir des doutes sur les modèles des grandes valeurs technologiques. Donc les valeurs qui composent le Nasdaq sont en recul, et on a vu notamment les doutes suite à l'irruption du modèle d'intelligence artificielle DeepSeek, qui est un peu le concurrent low-cost de ChatGPT et qui fait reculer ces valeurs du Nasdaq extrêmement fortes dans l'économie américaine. Donc le prochain grand rendez-vous financier de l'économie américaine, c'est le 19 mars prochain, avec la prise de parole de la Réserve fédérale qui va annoncer un petit peu ses pronostics sur les révisions de taux à venir. Donc les marchés s'attendent à un statu quo, c'est-à-dire à ce que les taux ne baissent pas davantage, mais ils seront bien sûr très attentifs à tout autre signal donné par la Réserve fédérale. Signe de ce début de déprime boursière, le cours de l'or, donc l'or valeur refuge par excellence, est en hausse de 15% depuis le début du mandat Trump, et il a dépassé les 3 000 $ ce matin à l'ouverture de la bourse de New York.
Merci beaucoup Émilie Musset depuis New York pour LN24 et pour Bonsoir l'Amérique. On va justement démarrer sur une actualité qui n'a pas été citée par notre correspondante aux États-Unis. Plus de 3 ans après l'invasion de l'Ukraine, l'espoir d'un cessez-le-feu apparaît. Hier, des négociateurs américains sont arrivés à Moscou. Leur objectif, convaincre Vladimir Poutine de contresigner l'accord de trêve conclu entre Kiev et Washington mardi. Mais si le président russe dit être pour un cessez-le-feu, les négociations s'annoncent malgré tout difficiles. Commençons par regarder ça en image avec Clara Grégoire. Avant d'aller en profondeur quand même, hein. Il avait dit, le président Trump, je mettrai fin à cette guerre, un président pacifiste, on l'a beaucoup dit. Stéphane, il a quand même réussi à faire avancer une situation qui n'avait plus tellement bougé depuis le 24 février 2022.
Alors,
où est-ce qu'on va nuancer tout ça, là, directement?
Il y a ce qui a fondamentalement changé, et on en a largement parlé, c'est-à-dire le changement complet d'alliance des Américains, le fait d'avoir donné à Vladimir Poutine, sans même que la négociation ait commencé, la plupart des arguments et la plupart des choses que demandaient les Russes, pour la plupart des concessions ont été faites, le fait d'avoir lâché en race campagne, en tout cas dans un premier temps, les Ukrainiens, allant jusqu'à humilier le président Zelensky et la Maison Blanche, d'avoir interrompu l'aide militaire et le partage de renseignements. Donc tout ça, effectivement, c'est le fameux séisme, hein, les plaques tectoniques qui ont tellement bougé en quelques semaines. Il y a ce qui a bougé du côté ukrainien, c'est-à-dire les calculs simples faits par le président Zelensky. Je me range aux conditions américaines sur l'exploitation de mes fameuses terres rares,
on va en parler, hein,
pour l'avenir, et d'accepter des conditions de cessez-le-feu, ou je le paye de ma peau et l'Ukraine avec, hein, pour le faire vulgairement. Et puis il y a ce qui a fondamentalement pas changé, c'est-à-dire du point de vue russe, oui, il y a effectivement un ton qui a changé à Washington, et donc en se croisant les bras, et bien Vladimir Poutine a bu du petit lait, puisqu'en gros il n'a pas dû tirer une balle, je dirais, pour obtenir des Américains ce que la guerre ne lui avait pas donné jusqu'ici. Et puis là on arrive effectivement à ce qui était prévisible. Je ne veux pas, se dit Poutine, contrarier Donald Trump, qui a fait d'énormes pas, y compris idéologiques, et y compris en termes potentiels d'alliance vis-à-vis de la Russie, mais mes conditions, et c'est là où le plus dur va commencer, mes conditions, elles, pour l'Ukraine, ne bougent pas, hein, c'est-à-dire que la trêve, pourquoi pas, à condition qu'elle débouche sur une paix durable, dixit les Russes, mais la paix est durable, c'est en gros la disparition de l'Ukraine, la disparition du pouvoir indépendant en Ukraine, c'est l'officialisation de l'annexion des territoires occupés. En fait, en gros, ce qui a justifié l'intervention militaire de la part des Russes en 2024. Donc, il y a
2022.
2022, oui. Et donc, effectivement, il y a les choses qui ont bougé. Et puis, on revient maintenant au cœur. Comment signer cette fameuse alliance idéologique, mais pas seulement potentiellement économique avec les Américains, tout en ne bougeant pas sur les ambitions russes qui, elles, ne changent pas d'un iota.
Bruno Coleman, avant de parler du fond, restons vraiment sur la méthode Trump. Il l'avait annoncé, il n'y aura plus de guerre. D'ailleurs, si j'avais été président à la place de ce vieux crouton de Biden, pour le citer, il n'y aurait pas eu de guerre. On peut le dire quand même, les choses bougent avec Donald Trump. On verra si ça ira dans le bon ou dans le mauvais sens, Bruno Coleman.
C'est incontestable et ça a été bien expliqué. Je pense que Trump a d'autres ennemis que la Russie pour le moment. Son combat, c'est contre la Chine. Son objectif, c'est de réindustrialiser les États-Unis, donc d'en faire une puissance économique comparable à celle que la Chine pourrait devenir. Et donc la Russie, pour lui, est un embarras. Et en faisant une paix avec la Russie, c'est aussi une façon d'affaiblir l'Europe qui elle-même va devoir se réarmer en achetant du matériel américain. Donc finalement, c'est un double ou un triple coup gagnant de la part de Trump, notamment par rapport à l'Europe.
Serge Main, alors perspective de trêve, pour être sûr que les gens nous suivent bien, on parle ici d'une proposition américaine qui a été donc acceptée par les Ukrainiens pour un cessez-le-feu de 30 jours sur terre et dans les airs. Le président Poutine a répondu en disant oui, mais avec quelques nuances, notamment que ce cessez-le-feu amène une paix durable. On est encore très tôt, en fait, dans cette actualité-là, Serge Main. On parle que d'un cessez-le-feu. On verra évidemment ce qu'il en est dans un mois minimum.
Oui, tout à fait. On parle que d'un cessez-le-feu et il n'est même pas sûr, effectivement, que Poutine va l'accepter parce que pour lui, on sent que pour le moment, il préfère faire traîner les choses. Et il ne faut pas oublier que il fallait écouter ce que Zelensky disait. Je pense qu'il a raison. Il connaît bien la Russie, d'autant qu'on a en tête ce qui s'est passé avec Minsk, les premiers accords de Minsk 1, de Minsk 2, et chaque fois, la Russie n'a pas tenu parole. Et ce matin, CNN disait il y a trois leçons à retenir de Minsk 1 et Minsk 2. La première, c'est qu'il faut d'abord armer l'Ukraine. C'est un élément absolument essentiel. La deuxième, c'est qu'il ne faut pas vouloir aller trop vite, comme on l'avait fait à ce moment-là. Vouloir aller trop vite, bien sûr, il faut épargner le plus de...
Mais s'attaquer au fond du problème, pas en surface.
Voilà, c'est ça. Et donc, il faut que le fond du problème soit réglé et il faut de véritables négociations. Et le troisième élément, c'est qu'il faut faire très attention au discours pour éviter de nouveau toute une série de faussetés. Un élément important aussi à rappeler tout de même, c'est que les diplomates américains qui sont en train de négocier sont des novices. Ce sont des personnes qui n'ont aucune expérience en matière de diplomatie.
Bien sûr.
Alors que face à eux, ils ont des personnes qui sont là depuis des années, qui sont habituées à négocier. Et donc, il est très probable que cela va avoir des conséquences dans l'ensemble du processus. Et on l'a entendu, et ça a bien été dit effectivement par Stéphane, on a l'impression que Trump a mis toutes ses cartes sur la table et on ne voit pas très bien ce qu'il peut encore faire. Dernier élément, c'est qu'il y a d'une part effectivement l'Ukraine sur laquelle Trump peut faire pression, et on a vu à quel point il l'a fait. Mais de l'autre côté, avec Poutine, il a beaucoup moins de moyens de pression. Alors on sent que Poutine veut le ménager, mais il reste tout de même très très prudent.
Oui, mais c'est intéressant, Stéphane, pour le côté très stratégique de Zelensky. On se rappelle toutes et tous, évidemment, de cette humiliation dans le bureau ovale avec ces mots très forts de J.D. Vance et de Donald Trump disant « Mais attendez, vous voulez pas la paix, en fait, vous voulez la guerre du côté ukrainien. » Là, avec cette annonce Zelensky qui dit « Nous acceptons cet accord de cessez-le-feu », maintenant, Poutine, on le voit mal dire à Donald Trump que lui ne l'accepte pas. Ce serait lui qui aurait aujourd'hui la pression sur les épaules américaines, Stéphane Rosenblatt.
Oui, mais enfin, il n'a pas l'air très inquiet, hein, Vladimir Poutine. Je pense qu'il se met dans un tempo de nouveau et une vision stratégique à beaucoup plus long terme.
Non, mais Zelensky s'en sort quand même.
Alors c'est vrai qu'il peut, ceci dit, la Russie peut avoir également de bonnes raisons de vouloir cette fameuse trêve à court terme.
Même si sur le terrain militaire, c'est plutôt les Ukrainiens ukrainien qui serait demandeur, hein, quand même, avec la région de Koursk, notamment.
Oui, mais c'est évidemment très difficile d'évaluer, parce que le moins qu'on puisse dire, c'est que la Russie n'a pas l'air d'y accorder, en tout cas publiquement, hein, une grande attention, c'est-à-dire le nombre de morts et blessés du côté russe, les dégâts quand même infligés à l'économie russe, même si ça n'apparaît pas de manière spectaculaire chez nous, les risques donc pour la Russie. Donc il peut y avoir un intérêt aussi à reconstituer ses forces pour la Russie à un moment. Mais à nouveau, la question, c'est la différence, et on l'a déjà souvent dit, entre la trêve et la paix. La trêve, la planète Terre est pleine d'endroits où les trêves, à commencer par la Corée, peuvent durer depuis 1953 sans que rien ne soit réglé sur le fond. Est-ce que l'Europe,
en fait,
voilà, et on gère finalement une situation de guerre qui ne dit pas son nom, avec un risque, mais dans lequel en fait les hostilités sont arrêtées. La paix, c'est autre chose. Et en l'occurrence ici, évidemment, Vladimir Poutine veut lier les deux parce qu'il pense que. Il pense aujourd'hui, au vu du discours de Donald Trump, que Donald Trump sera prêt à tout lâcher, puisqu'il l'a déjà fait dans sa première discussion avec Vladimir Poutine. Et donc, entre autres, la personne du président Zelensky. Alors, il a sauvé sa tête pour l'instant en se ralliant à la proposition américaine. C'était plutôt jouer finement.
Il l'avait traité
mais il a compris, effectivement,
hein.
La situation dans laquelle il était. Ceci dit... Pour arriver à la phase 2, rien n'indique aujourd'hui que les Américains sont prêts à sauver le gouvernement du président Zelensky, alors que les Russes en font d'ailleurs une des conditions sine qua non pour obtenir un accord avec les Américains. Donc les Russes, à nouveau, ont un autre tempo. Ils ont le temps par rapport à tout ça, alors que Donald Trump, lui, et il le démontre chaque jour dans ses déclarations et dans ses décisions.
Il faut que ça avance.
Il veut en tout cas démontrer, même de manière faciale dans son narratif, qu'il obtient des résultats et qu'il est efficace immédiatement. Même si derrière on passera à autre chose et qu'au bout du compte on se posera des questions sur le sérieux du travail qui a été fait.
Vous parlez de phase 2, Stéphane Rosenblatt. On l'a bien compris avec Donald Trump qui a déjà, et restons prudents, mais plus ou moins déjà accepté les concessions russes, c'est-à-dire les demandes russes plutôt du côté ukrainien. Ce qu'on demande évidemment, ce sont des garanties de sécurité pour éviter que cette trêve se transforme en simplement un moment pour les Russes pour se réorganiser, repartir à l'attaque. Bruno, comment on tourne vers vous? Parce que dans cet accord, il est stipulé qu'ils devront s'arranger pour justement voir comment les Américains vont exploiter ces terres rares en Ukraine, ces minerais. C'est là-dessus aussi peut-être que les Ukrainiens vont bien jouer le coup. Si les Américains exploitent cette terre rare en Ukraine, ils seront en Ukraine, donc d'une certaine manière, ça pourrait permettre aux Ukrainiens de dire, eh ben là voilà une garantie de sécurité, les Russes ne taperont pas les intérêts américains en Ukraine.
Oui, mais ça c'est l'argument qui avait été utilisé par Trump en disant à Zelensky, si nous sommes là,
ça a du sens,
industriel, nous vous protégeons de facto. Et finalement, c'est un scénario qui a une certaine logique. Moi je crois que ce n'est plus en Ukraine que ça va se décider. Ça va se décider, ni en Europe d'ailleurs. Ça va se décider entre la Russie et les États-Unis, ça a été dit tout à l'heure. Et l'important c'est de comprendre que finalement l'Ukraine va devenir une terre d'ajustement entre le monde occidental et la Russie, ni plus ni moins. Il y aura certainement des pertes importantes de territoire au profit de la Russie, tout le monde l'a compris. Et donc ce que nous aussi on doit intégrer dans nos raisonnements, c'est de savoir dans quelle mesure on doit vraiment et dans quelle amplitude réarmer l'Europe face à une menace russe qui peut-être va s'atténuer avec un accord qui est en train de se négocier. Et donc aujourd'hui, l'agitation qui prévaut dans toutes les chancelleries avec ce fameux programme Rearm qui a été annoncé par Ursula von der Leyen, c'est un plan qui est bien sur papier, mais il serait plus intelligent de garder des relations positives de défense avec les États-Unis plutôt de croire que partant de rien, on va être capable de défendre l'Europe, voire de développer des capacités offensives qui, à mon avis, n'ont pas de légitimité ni de fondement à ce stade.
Après, Bruno Coleman, pour rappeler à ceux qui nous suivent aussi, il faut le rappeler, l'exploitation des terres rares, ça ne se fait pas comme ça. Hein. Il y a plusieurs années, évidemment, où les Américains doivent s'installer, développer aussi les matériaux. Donc ça veut dire que la présence américaine, c'est plusieurs années.
C'est un nouveau Yalta, finalement. C'est-à-dire qu'une partie du territoire, notamment l'accès à la mer, a été acquis par les Russes. Ça commence avec la Crimée. Et d'autre part, il y a un partage de l'Ukraine entre le monde occidental et le monde russe, c'est tout. Et nous, Européens, nous serons en train d'observer une situation, simplement dans la crainte entretenue, peut-être de manière un peu factice, que nous sommes nous-mêmes sous la menace russe.
Serge Jomin, est-ce qu'il y a eu des pressions aux États-Unis depuis cette réunion, cette conférence de presse catastrophique de Trump et Vance finalement face à Zelensky? Est-ce que les médias en ont beaucoup parlé? Est-ce qu'il y a eu la population qui s'est un petit peu insurgée aussi face au comportement du président Trump? Est-ce que même des républicains se sont
fait entendre pour expliquer un petit peu aussi ce changement d'attitude de Donald Trump?
Alors, il y a plusieurs choses. Les républicains sont relativement discrets parce qu'ils sont évidemment gênés aux entournures. Et la particularité, on l'a déjà beaucoup répété, c'est qu'on arrivera très vite aux midterms. Et donc, il doit faire très attention.
Élections de mi-mandat. Les midterms, c'est
effectivement des élections. Donc, on a des élections pour la Chambre. On renouvelle la Chambre des représentants tous les 2 ans aux États-Unis et le tiers du Sénat tous les 2 ans. Et évidemment, il y a tout un processus d'élection primaire et donc ils doivent être prudents. Quand on regarde les sondages pour le moment, il faut se rendre compte que les Américains, même s'il y a une prise de distance éventuelle par rapport au financement de l'armement en Ukraine, par contre, il reste une certaine hostilité par rapport à la Russie. Et donc, les positions de Donald Trump ne sont pas si largement défendues, y compris chez les républicains. Les sondages montrent que chez les républicains, alors ce n'est pas une majorité, mais il y a un pourcentage significatif qui prend ses distances par rapport aux positions qui sont les siennes. Donc ça, ce sont des éléments dont on doit être conscient. Alors l'autre point aussi important, et on vient encore de le voir avec la rencontre qui vient d'avoir eu lieu et dont on va peut-être parler avec le secrétaire général de l'OTAN, la particularité, ça s'est passé au même endroit. Et Donald Trump l'a de nouveau mis très mal à l'aise en parlant du Canada.
Il y a des images,
voilà, des frontières du Canada, etc. Et je veux dire par là qu'il y a toute une sorte de diplomatie devant les médias. Parce que ce qu'il y a, c'est qu'il y a une volonté aussi de Donald Trump de soigner son image, de montrer ce qu'il est en train de faire.
Et dire aussi, je ne suis pas un politique comme les autres. Regardez, je vous dévoile ce qui se passe.
Tout à fait, je vous dévoile ce qui se passe. Et comme vous le disiez bien tout à l'heure, Jim, c'est vrai que il fait bouger les lignes. Le problème, c'est qu'il va tout de même falloir voir à terme ce que cela va donner. L'avantage pour le moment, c'est qu'il est évidemment, mais tous les jours dans les médias, on n'arrête pas de le rappeler, et donc ça donne l'impression, une partie de la population, qu'il est extrêmement dynamique. Mais attendons quelques semaines, quelques mois, pour voir quels seront les résultats. Et le problème, on le voit sur la crise ukrainienne, c'est que, contrairement à ce qu'il a laissé entendre, ce n'est pas quelque chose qui se règle en quelques heures, en quelques jours, voire en quelques semaines. Et donc, mais ça passe bien, et donc une partie de la population se dit, finalement, on a un président qui gouverne, et ça donne évidemment, on l'a déjà dit souvent, une image très négative de ses prédécesseurs, et notamment de Joe Biden, où on a l'impression que Joe Biden n'a rien fait, alors qu'il faut tout de même rappeler que si Joe Biden était un vieil homme, etc., il avait autour de lui une équipe.